Ubi France Radio, tout pour se développer à l'international.
Toujours avec Ubi France pour les RIN, les rencontres internationales du numérique. Et là, on prend l'avion, on part jusqu'à Dubaï et on rencontre Pascal Roger. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller export NTIS, nouvelles technologies, innovation et services. Est-ce qu'on peut dire un premier mot à Dubaï, comme je le disais. Est-ce qu'on peut dire un premier mot sur le pays, quelques grands chiffres clés?
Alors, les Émirats Arabes Unis, bon, on en a beaucoup entendu parler depuis 4-5 ans, et puis surtout depuis la crise financière de Dubaï. Alors, pour replacer Dubaï, contrairement à beaucoup de mauvaises langues, Dubaï n'est pas en faillite. Dubaï a juste changé d'actionnaire, on va dire. C'est l'Émirat d'Abu Dhabi qui a aidé. Mais ils ont des infrastructures, des actifs qui pèsent lourd. Ils ont Emirates Airlines, ils ont leur port, c'est le quatrième opérateur de portuaire au monde.
D'accord.
Une des plus grosses compagnies aériennes est Emirates Airlines. Ils couvrent tous les continents. L'aéroport de Dubaï fait 47 millions de passagers. Ils vont dépasser Roissy dans 2 ans. Donc le hub de Dubaï tourne à plein. Dubaï est une ville touristique, ils font plus que l'Égypte et il n'y a strictement rien à visiter à Dubaï, juste des vols.
Il y a quand même une piste de ski.
Il y a une piste de ski, il y a les plus hautes fontaines au monde comme à Las Vegas, la plus haute tour du monde, le plus grand mall au monde. Alors le plus grand mall au monde...
Plus grand conseiller export peut-être
Non, pas encore. Je l'espère un jour, mais en tout cas, Dubaï, c'est ce carrefour où plein de gens se rencontrent, font des affaires, vont à la plage, font du shopping et c'est surtout ça qui fait tourner Dubaï. Et c'est aussi un lieu où on plante sa tente pour couvrir une région qui va des fois de l'Afrique du Sud à la Turquie. Les bureaux régionaux de nos grands groupes sont tous à Dubaï.
D'accord.
Par exemple, GDF Suez, ils couvrent la zone META, c'est Middle East, Turquie and Africa. Donc c'est vraiment un carrefour. C'est un peu ce qui est le Singapour pour le sud de l'Asie. C'est
d'accord.
Un peu là où tous les corporate bureaux sont.
Et alors, Pascal Roger, revenons à votre sujet plus particulièrement, les nouvelles technologies de l'information, de la communication, l'innovation, les services. Il y a des tendances observables à Dubaï?
Hormis que c'est des fans de iPhone comme à travers le monde entier, oui, c'est des gens qui sont à la pointe de la technologie, ils sont à la pointe de la mode, ils ont des pouvoirs d'achat assez démentiels. Alors il faut comprendre aussi aux Émirats, c'est pas comme dans d'autres pays où vous avez en Chine vous avez des Chinois, aux Émirats vous avez 160 nationalités. Dans le marketing se fait par plein de cultures, donc c'est beaucoup plus telle nationalité peut être plus iPhone, d'autres plus BlackBerry, donc c'est pas vraiment facile d'avoir une photo des Émirats.
D'accord.
En tout cas,
c'est compliqué du coup en termes d'études de marché, excusez-moi.
Oui, les études de marché c'est assez compliqué pour ça, surtout quand on veut faire un échantillon sur une population et on se retrouve à avoir un échantillon avec des cultures complètement diverses et variées. Donc 160 nationalités.
En fait, le marché mondial.
Voilà, non mais c'est un peu le laboratoire. Ouais. On dit souvent de Dubaï, c'est le laboratoire de la mondialisation, avec tous ses excès et puis tous ses côtés positifs aussi. Alors sur le secteur, si je bascule sur les télécoms, ils peuvent être à la traîne parce que ils ont l'habitude des duopoles, c'est des sociétés d'État, mais ces sociétés ont pris des licences à l'étranger. Etisalat est un des plus gros opérateurs télécoms au monde, ils sont juste derrière Orange, ils sont dans une vingtaine ou une trentaine de pays. Et dans ces pays où il y a une concurrence, ils déploient toutes les nouvelles technologies, ou du moins ils aiment bien être à la pointe pour gagner des clients. Tandis que aux Émirats, comme l'autre concurrent est au sud détenu par l'État, ils sont assez mous. Donc un certain retard, mais...
Où est-ce qu'il y a de la place à prendre pour les entreprises françaises aujourd'hui, toujours en ce qui concerne les nouvelles technos?
Alors moi je pense, et là je vais descendre au sud de Dubaï, qu'on parle moins souvent d'Abu Dhabi. Sur Abu Dhabi, ils ont créé une zone franche dédiée au contenu média pour le monde arabe. Pourquoi? Parce qu'ils remarquent que ce soit les jeux vidéo, les applications iPhone, tout est en anglais, il n'y a rien qui est en arabe. Donc ils se disent, il y a un marché, il y a 400 millions d'habitants dans le monde arabe. Les jeux vidéo, bon, c'est souvent le Jihad qui tire sur le méchant terroriste arabe, mais on peut peut-être un peu nuancer ou du moins mettre des dialogues en arabe ou des choses comme ça.
Impliquer en fait le consommateur, tout simplement.
Voilà, tout simplement. Ouais. Alors c'est vrai que le consommateur, encore, c'est qui convie. Si c'est juste les Émiratis, ils sont que 10% de la population aux Émirats, mais... En fait, on se base à Abu Dhabi ou à Dubaï, mais on pense régional.
Ouais.
L'Interland de Dubaï, c'est toute la région. Si on vient juste pour les Émirats, on se plante. Parce que finalement, il n'y a que 8 millions d'habitants. Alors, si on fait marche arrière d'il y a 10 ans, ils étaient que 3 millions. Donc, il y a eu 5 millions qui sont apparus comme ça, pas du jour au lendemain, mais sur une décennie. Donc, oui, le contenu média, la convergence de plus en plus entre... les chaînes et les opérateurs. Il y a des Al Jazeera, vous avez CNN qui est sur place, vous avez les bureaux, enfin, je veux dire, il y a Al Arabiya qui est la chaîne saoudienne qui est présente. Donc, ces deux mondes, comme partout, vont commencer à se rapprocher. Et vraiment, il y a plein de petits. Il y a des places pour des sociétés françaises spécialisées dans les niches, tout ce qui est applications iPhone, tout ce qui est basculement de la télé vers le téléphone. Enfin, vraiment. Et là. Je pense que nous, on a une offre forte et de qualité. Notre point faible, c'est juste que ces sociétés sont encore petites et il faut un peu des testostérone pour avoir la taille et la surface.
Il faut du fond.
Parce que là-bas, c'est un marché de marque. Tout de suite, quand on parle, c'est Apple, Cisco. Quand ils signent les locaux, les compétences techniques sont des fois... Bon, ils sont importés du monde entier. Tout le monde est expat là-bas, mais... Il y a un turnover important, donc les équipes changent et puis les locaux sont certains ont les compétences mais pas toujours. Donc ils aiment bien signer et avoir une assurance. J'ai un grand nom de tel secteur en face de moi, donc je signe, je paye le prix, mais au moins je sais que ça suit derrière. Et c'est pas, je vais pas m'occuper pour cette solution, je vais prendre une petite PME française. Et puis non, ils aiment bien l'ensemblier. C'est à lui de après faire le shopping des technos. Et donc c'est généralement pas facile pour les sociétés françaises qui ne sont pas présentes déjà implantées ou du moins indirectement avec un partenaire local pour faire le lobbying et pour se placer voilà.
Et c'est là qu'UbiFrance arrive, c'est pour ces réseaux, c'est pour ces contacts là.
Tout à fait. Alors souvent on nous dit on veut aller voir les opérateurs, on leur dit souvent alors attendez, est-ce que vous êtes prêts, c'est un one shot, si vous vous grillez c'est à
faut
jamais
pas se planter.
Et vous nous grillez aussi indirectement, parce que là-bas, on se présente comme l'ambassade de France.
Oui, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on vous fait confiance chez les opérateurs, c'est que vous qualifiez en amont les projets que vous présentez.
Voilà. Et puis c'est la mission aussi d'UbiFrance d'aller plus dans le qualitatif, et, parce qu'on était conscient qu'on envoyait des sociétés qui n'étaient pas toujours prêtes. Donc maintenant, plus qualifiées, pour celles qui trouvaient un partenaire... Si possible, envoyer un VI sur place, parce que le partenaire est souvent multicarte là-bas. Donc, si on fait confiance au partenaire, il représente une centaine d'autres sociétés. Donc, il consacre 2-3% de sa journée à la PME française. Donc, envoyer un homme de la PME hébergé chez le partenaire et qui fait vraiment le suivi. Donc, c'est ça ce qu'on conseille.
Restons sur les conseils. Quels conseils on peut donner à l'entrepreneur qui souhaite s'exporter aujourd'hui là-bas ? En plus de se faire accompagner, en plus d'avoir éventuellement un partenaire sur place et en plus d'avoir peut-être un VIE.
Alors déjà, oui, c'est vrai, la première étape, c'est on ouvre les premières portes UbiFrance. On leur conseille, celles qui ont la surface financière, d'envoyer un VI, parce qu'il faut faire le suivi des premiers contacts. On rentre, on ouvre la porte chez un grand compte là-bas. Le lendemain, il vous oublie, puisqu'il a reçu l'Italien, l'Américain, le Chinois. Enfin, vraiment, comme Dubaï est un carrefour, tout le monde va dans cette région. Et donc, pour rester, on va dire, pour ne pas se faire oublier, il faut être présent et actif. Présent et actif. Et il faut savoir aussi, comme c'est un marché souvent de prix, ils vont prendre le moins cher. Alors si on est plus cher, faut vraiment faire tout un travail de pédagogie pour expliquer. Certes,
pourquoi
je suis plus cher. Mais si vous faites, il faut faire le travail pour le client souvent, parce qu'ils sont pas, ils voient pas sur le long terme. Sur 5 ou 6 ans, notre solution va vous permettre, nos équipements, il faut pas les changer tous les 2 ans. Donc faut réfléchir, mais vraiment se différencier et puis expliquer pourquoi on est plus cher.
Toujours pas expliquer. Juste
parce que ça coûte plus cher de produire en France. Non, il faut montrer que notre produit vaut la différence.
Qu'est-ce qu'on peut dire à un entrepreneur qui hésite aujourd'hui à s'implanter à Dubaï ?
Alors moi, je limiterai à une population. Si vous êtes fort en France déjà, en croissance et en Europe, et que vous avez une certaine taille, à mi-chemin vers l'Asie, parce que souvent on pense l'Asie, mais Dubaï est au milieu. Moi, j'ai souvent tendance à dire que Dubaï
c'est
est une station essence dans la grande autoroute vers la Chine et l'Inde. Et c'est vrai, c'est ça. Donc, entre ces gros blocs, il y a un trou au milieu. Et puis c'est un trou, mais avec beaucoup de liquidité c'est démentiel le poids que pèsent ces petits pays du Golfe en population. Et il y a des opportunités, donc vous réfléchissez Amérique latine, Asie, si au milieu entre l'Afrique et le Moyen-Orient, il y a souvent Dubaï, et donc ça serait la troisième, quatrième destination, on va dire, en termes de logique.
C'est voilà. Dit un grand merci à vous, Pascal
merci
Roger
beaucoup.
Pour toutes ces explications, tous ces conseils. C'était ici à UbiFrance, les rencontres internationales du numérique.
Merci beaucoup.
À très bientôt.
Au revoir.